Gameblogueuse, gameblogueur, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog Podcast 339. Avec moi aujourd'hui, nous avons Romain.
Salut Plumeau.
Nous avons Julo.
Salut.
Nous avons Julien.
Bonjour.
Et nous avons Alain Huyglacourt, alias AHL.
Alors il faut
tu peux marquer dans ton micro.
Ah bah ouais.
Faut me parler dans ton micro, on entendra mieux comme ça.
Ah, en fait, il y a Romain, Alain, ouais. Julien, oh, y a, oh, c'est les yens quoi.
Janin,
Molinarien.
Ouais, là pas longtemps, il y a
numéro 1,
qui a disparu, super, c'était Roger Hanin. C'est pareil, c'était voilà, ouais. Des trucs qui finissent en 1 tout le temps. Alors cette semaine, pas d'actu, on a décidé de faire un petit break. Bon, en fait, on est plutôt quelques-uns à être partis en vacances au moment où paraîtra ce podcast.
Mais non.
Donc du coup,
bah,
pour toi.
Alors, on est quelques-uns, j'ai pas dit tous, j'ai dit quelques-uns. Et donc,
ouais,
du coup,
l'actu, elle est pas folle en plus.
Ça se trouve, cette semaine, deux semaines avant de le savoir, vaut mieux éviter de s'avancer, je pense, Julien.
Bah, en termes de sortie de jeu, etc., sauf annonce tonitruante, après.
On ne sait jamais, tu sais, hein, le jour où la Saturne a été annoncée aux États-Unis. Oui, elle est disponible, machin. Bon,
allez, je ne m'en ai pas douté.
Tu mets ton billet. Bon, on verra
dans
deux semaines.
Sortie de jeu, hein. Après, les infos, ça peut être autre chose, mais en sortie de jeu, bon.
Bon, toujours est-il que sans nous, eh bien, le podcast n'existerait pas. Donc, on a décidé de faire non pas une actu, mais un thème. Et le thème de cette semaine, à force de me faire changer de caméra, Poufy, il va me rendre complètement chef. Si vous êtes premium, vous pouvez voir, je ne sais pas où regarder. Voilà, la preuve. On a décidé de parler. Après nos jeux vidéo préférés, après le gameplay, après la direction artistique, on parle toujours de ces choses-là. Eh bien, aujourd'hui, nous avons décidé de parler. Et là, je vais utiliser la magie
incroyable
de l'accessoire.
Oh.
Nous allons parler un petit peu de personnages. Et
de
personnages. De quel personnage?
De héros.
Et voilà. Bah oui, mais tu...
Ah pardon, excuse-moi.
Tu m'as niqué mon effet d'annonce.
Bah, c'est
non,
ah,
franchement, tu me l'as défoncé.
Okay,
j'aurais voulu attendre un petit peu, tu vois, que David chante. Enfin, Davidou, pour être exact.
Alors j'ai rien dit, faisons voilà. Tous comme si je n'avais rien dit.
Mais si, on va faire exactement comme si tu l'avais
moi,
dit.
Je pense
que nous allons parler
totalement ce podcast.
Voilà. Ah bah oui, on peut le refaire depuis le début.
Non,
absolument pas.
Je m'en
nous allons parler de héros. Et oui, les héros de jeux vidéo, ou les héroïnes, les protagonistes. Nous allons revenir un petit peu sur tous ceux qui nous ont marqués personnellement, qui nous ont laissé une gravure indélébile dans notre chair, avec les quatre personnes qui sont ici. Mais avant de savoir quels sont nos héros préférés, ce qu'ils ont apporté aux médias, hein, de chacun à leur manière. Je vais commencer, avant qu'on parle, laisser parler notre cœur, j'ai envie de vous poser une question, à vous tous. Et vous allez tous y répondre. C'est quoi pour vous un bon héros? Julo.
Ah, j'aime ce moment.
Je pense qu'il y a des bons héros. C'est vrai que c'était pas du tout préparé, ça, tu m'avais caché celle-là, non?
C'est vrai. À part confier,
je pense pas qu'il y ait une façon de faire un bon héros. Je pense qu'il y a plein de façons. Et d'ailleurs, la sélection que j'ai faite, je vais pas la dévoiler tout de suite parce qu'on va garder la surprise, elle est faite de héros pleins et de héros vides, selon moi. Et en fait, dans le jeu vidéo, il y a des héros qui te fascinent parce que, je veux dire, tu les abordes comme un héros de cinéma. C'est-à-dire, il a une histoire, il a quelque chose qui te touche dans sa personnalité ou quoi. Et t'en as d'autres qui sont plus vides, plus génériques, et dans lesquels tu mets un peu plus de toi. Donc je crois qu'un bon héros, c'est avant tout un héros qui t'interpelle d'une de ces deux façons-là, quoi. Voilà.
D'accord, très bien.
Il faut que ça te touche.
Moi, je pense qu'il y a les héros très humains et qui, du coup, on s'identifie d'une certaine manière parce qu'on va retrouver des émotions, des attitudes qui nous rappellent nous-mêmes ou des proches ou qui vont nous toucher par... Superbe. Ou qui vont nous toucher par leur humanité, justement, ou leur inhumanité aussi, potentiellement. Et puis, il y a les héros qui sont des héros, on va dire... soit extrêmement rigolo, décalé, dans le côté héros justement, totalement pas du, enfin super humain, surhumain, etc. Et donc c'est ces deux types là, mais il faut en tout cas des personnages, je pense, qui sont très marqués, qui ont vraiment une personnalité. Ça c'est la chose essentielle. J'ai envie de dire c'est comme dans la vraie vie, hein, les personnes qui marquent, c'est les gens qui affirment
leur les originaux quoi.
Bah en tout cas ceux qui ont une personnalité, qui ont quelque chose, une marque qui les définit en bien, en mal.
Mais c'est quoi, etc. C'est une sorte d'identification surtout ?
Ben, il faut sortir du lot quoi. C'est-à-dire que c'est les héros qu'on n'aime pas ou les héros dont on parlera pas aujourd'hui, c'est les héros qui sont les fades copies d'autres héros ou d'autres personnages qu'on a déjà vus mille et une fois, des ressuscés d'archétypes quoi. Ceux dont on va parler, probablement qu'ils ont soit été à la base d'un archétype, ou qu'ils ont marqué leur temps ou un jeu par leur personnalité, leur force, leur caractère, leur charisme, leur design ou autre.
D'accord. Alain.
Bah moi j'aime pas trop les héros trop lisses, trop héros, trop bien quoi. Mmh. J'aime bien un côté effectivement humain, mais un côté des contradictions, un côté un peu trouble. Voilà, j'aime bien.
T'aimes pas les personnages tout blancs ou tout noirs de toute
manière. Non, voilà, parce que je pense que ça n'existe pas, puis ça a pas grand intérêt en plus. Donc j'aime bien ce côté très très mélangé, très contradictoire. Un petit côté héros à la fois anti-héros, quoi. Mmh. Tu vois, qui se balade entre les deux.
On verra si ta sélection va dans ce sens.
Il est dans Luigi, quoi.
Je pense qu'il y a, plusieurs éléments. Il y a le design dans certains cas. Mmh. Tu peux avoir la personnalité qui joue beaucoup aussi. Mais il y a aussi un autre élément qui peut faire des grands héros de personnages pas forcément intéressants au fond. C'est l'attachement que toi tu as vis-à-vis d'eux quand, dans le jeu par exemple. Si tu vis une grande aventure avec un personnage qui est pas forcément super charismatique, mais que le jeu t'a marqué, ce personnage là indirectement va devenir un grand héros pour toi. Parce que je pense à un des trois personnages que j'ai mis dans ma liste, qui est pas forcément qui a pas forcément un caractère super marqué, mais qui m'a fait vivre de tels moments dans le jeu. Pour le coup, je l'associe à un grand héros du jeu vidéo.
Très bien, bah c'est tant bien Romain que tu sois celui qui parle.
C'est pas avec celui-là que je vais commencer. D'ailleurs.
On va commencer avec celui-là, avec un autre héros, ton premier héros.
Ouais.
C'est alors moi ça m'a surpris et tu vas nous expliquer pourquoi tu l'as choisi. C'est George Stobart de la saga. Alors comment on l'appelle?
Chevalier de Baphomet.
Moi je cherchais le nom anglais en fait.
Broken Sword.
Broken Sword, exactement. Ouais. Alors pourquoi George Stobart? Et qui, rappelons-le, est un blondinet américain.
Pour le coup, en termes de design, George Stobart, ouais, c'est le mec lambda par excellence, mais tellement intelligent. Très pince sans rire, ironique, sarcastique, malin. C'est un peu une sorte de MacGyver, de MacGyver en plus drôle. Mm. Et il m'a fait vivre de grandes aventures. Il est arrivé pile à, pour moi, dans une transition de l'ère Super Nintendo avec des jeux très enfantins, etc., à des expériences plus sophistiquées. Là, en plus, toutes ces aventures, les dialogues étaient joués. C'était en français, c'était bien joué. Et j'ai vraiment voyagé avec lui et à chaque fois il arrive à se tirer de situations complètement, pas forcément farfelues, mais souvent compliquées, avec humour, sans jamais abuser de la violence. Donc il peut assommer des mecs, mais c'est pas vraiment son but, c'est pas forcément de tuer ou de faire mal, enfin même il tue pas. Et il est très malin, en plus il est doublé en français par Emmanuel Curtil, qui est un comédien de doublage très connu en France, qui fait les voix de Chandler dans Friends, de Jim Carrey, etc. Et il prend un faux accent anglophone qui donne beaucoup de charme au personnage.
C'était lui dès le premier épisode ?
Ça a toujours été lui. En français, d'accord, ça a toujours été Emmanuel Curtil, même dans le cinquième, ils l'ont repris.
Est-ce qu'il y a un lien de parenté avec Jamie Lee Curtil ou Tony Curtil ?
Là, je pense que Pupi pourra couper cette blague.
Tu es sûr que tout le monde la comprendra et qu'ils la trouveront géniale.
Jamie Lee Curtil. Et donc, ouais, tu vois, enfin, comme le monde Pupi, George Stobart a évolué un peu au fil du temps. Bah, déjà, il y a eu le passage de la 2D à la 3D, etc.
Il n'était pas vraiment le bienvenu, ce passage-là, d'ailleurs.
Ah ouais, la 3D, ça n'a pas été.
Les épisodes en 3D,
ça a été compliqué. Mais clairement, les deux meilleurs Baphomet sont les deux premiers. Mais malgré la qualité d'ensemble du jeu, George Stobart, du premier jusqu'au cinquième, est resté fidèle à lui-même. Le personnage, il n'y a jamais eu de raté dans son écriture.
Bah, il incarne complètement la série, en fait. Les Chevaliers de Baphomet, c'est lui, quoi.
Mais moi,
c'est lui et Nico, mais c'est surtout lui.
Surtout plus George.
En dernier point, c'est pas un petit peu aussi l'incarnation du personnage type de point and click, parce que moi, un Guybrush Threepwood par exemple dans Monkey Island me fait penser exactement à ça. Dans la plupart des point and click de LucasArts de l'époque, c'est un peu ce petit côté pince sans rire, ce petit côté ingénieux.
Ouais, certainement, mais là c'est un choix qui est purement personnel, parce que je me place vis-à-vis de mes expériences, mes expériences moi. Et moi, finalement, le point and click, je l'ai découvert avec Baphomet, ouais, parce que je jouais pas sur PC, je jouais pas ce genre de jeu. Et
même
en
pas
fait,
Discworld, parce que t'es un enfant de la génération PlayStation, on peut le dire.
Ouais, j'ai voulu jouer un peu à Discworld, mais la version que j'avais ne marchait pas, donc ça plantait assez vite. Donc finalement, j'ai jamais pu faire l'expérience en entier. Et je me rappelle, en fait, ce qui m'avait fasciné avec Baphomet à la base, c'était dans les magazines, les previews, les tests, ce jeu qui ressemblait à un dessin animé. Et en plus, on me disait, d'une, c'est bien joué, deux, c'est bien écrit. Et enfin, c'était un ensemble. J'étais fasciné par ce jeu-là. Et quand je l'ai eu pour Noël, bah, je l'ai ouvert à 19h. Et la fois
23h, tu l'avais fini.
Non, la fois suivante, sur les forums, j'ai regardé ma montre, il était 3h du matin. J'avais joué non-stop, sans m'arrêter, totalement envoûté par ce monde et par ce personnage.
Totalement oublié par tes parents.
Oui, totalement oublié par tes parents. Tu devais avoir 12 ans, non ?
Je devais avoir 11 ans et demi, ouais. C'était les vacances.
Tu sais ce qui se passe hein, quand les parents sont un peu négligents comme ça ?
Non, mais
en Angleterre ?
Tu sais ce qui se passe en Angleterre quand c'est comme ça ? Eh bien, moi, je vais te le dire. Romain, pose ce Broken Sword tout de suite.
Non, mais hein au moins tu m'as pas mis Careless Whisper, il y a pas d'histoire de mes cousins cette fois. Et non mais enfin même je me souviens de plein de dialogues de Baphomet, un truc au tout début du premier quand il essaye de s'enfuir de la scène où il y a eu une explosion, il dit ne tirez pas, je suis innocent, je suis américain, et t'as le flic français qui lui répond bah faudrait vous décider. Non bref, là pour le coup c'est même pas George qui est drôle, mais c'est franchement Baphomet génial, George Tobart génial. Si vous connaissez pas la série, je pense que Baphomet 1 et 2
c'est Revolution Software, Revolution Software.
J'étais un tout petit peu déçu par le dernier épisode. Je sais pas si tu as joué, mais
en fait le dernier ils ont voulu
il se repose un peu trop sur ses acquis, il est
le problème c'est que comme c'est financé par Kickstarter et qu'ils ont vraiment pris en compte les avis des fans, ils ont voulu faire trop de fanservice et donc en fait Baphomet 5
surtout,
donne un peu l'impression d'être un best-of
ils auraient pu moderniser certains trucs aussi dans l'interface et tout.
En fait ils ont vraiment voulu faire du Baphomet à l'ancienne, aussi bien dans le gameplay que dans le que dans l'histoire. Donc là pour le coup ça c'est un peu vieux. J'ai été un peu déçu aussi et pourtant
je l'ai pas fini moi perso, je me suis arrêté en cours.
Non mais je l'ai terminé, mais je fais partie de ceux qui ont financé.
Vous voulez un petit thé ou non? C'est bon, on peut passer à la suite.
Ok, ça va, on a le droit de digresser juste 2 minutes quoi.
Non, pas du tout, c'est
on parle de jeux vidéo, merde.
Enfin bref, si vous aimez bien, si vous aimez les personnages qui ont du caractère et qui sont bien écrits, George Tobart fait partie de ceux-là.
Très bien. Alors le personnage suivant, c'est pour ma gueule, on m'a dit qu'il fallait que je donne mes trucs, j'avais pas spécialement envie, mais le chef qui est à ma droite là, si vous êtes premium.
Quand même, c'est intéressant de savoir quels sont tes héros préférés.
Ouais, je trouve pas que ce soit très intéressant.
Tu n'es pas qu'un passe-plat, mon ami.
Ah, mais j'aimerais bien n'être que ça, tiens, ça m'arrangerait. Non, je plaisante évidemment. Mon personnage numéro 1, c'est Alucard dans Castlevania Symphony of the Night, même s'il existait déjà auparavant dans Castlevania 3 et qu'on l'a vu aussi dans Castlevania Legends sur Game Boy. Je sais pas comment.
Bon, avant tout, parce qu'il a la classe.
Il a la méga classe, voilà, tout bêtement. Faut savoir qu'Alucard. Ça veut dire Dracula à l'envers, que le nom est tiré d'un film de 1943, L'enfant de Dracula ou Fils de Dracula, je crois. Donc déjà, ça a un petit côté mystique en plus. Et puis ils en ont fait un personnage dans Symphony of the Night qui est juste extraordinaire.
Super classe.
Alors là, évidemment, on regarde. Si vous êtes premium, vous voyez que c'est une vidéo d'un autre jeu, c'est Lord of Shadow.
Mais le retour d'Alucard.
Il y a aussi un Alucard dans Lord of Shadow, mais c'est pas exactement la même classe. C'est pas du tout la même classe. Mais
de toute façon, le deuxième épisode n'avait pas du tout la même classe que le premier.
Après c'est une question de point de vue. C'est pas la même époque. Mais bref, dans Symphony of the Night, c'est un Alucard qui se réveille parce qu'il voulait pas, il voulait plus
dormir.
Que la lignée des vampires existe, et donc il s'était mis en sommeil éternel. Puis à un moment, il a eu une petite alarme qui fait quoi ? Papa est réveillé. Qu'est-ce qui se passe ? Donc il s'est dit, je vais aller buter mon père, et on en parle plus. Et il y a une espèce de, Symphony of the Night, c'est l'épisode où vraiment la série a complètement changé, où ils ont rajouté une composante scénaristique et héroïque, épique en plus. Et puis ils ont essayé de fouiller un petit peu dans le passé de Dracula et par le biais d'Alucard, dont on relate l'existence et la mort tragique de sa mère, le rapport de Dracula avec la mère d'Alucard. C'était peut-être un truc un peu plus émouvant que les autres. Et puis Alucard, c'est le perso qui ne manie pas qu'un fouet, qui peut manier des épées, des nunchaks, qui peut manier des lances, pour des dizaines et des dizaines de raisons, je pense que c'est un des meilleurs persos de la série et qu'il y a eu une tentative de le faire revenir après les épisodes Aria of Sorrow et Dawn of Sorrow, où il était au second plan en personnage secondaire. Il y a eu une tentative de refaire un autre en 2008 qui a été avortée à cause de Lord of Shadow, qui lui était tellement bien et tellement beau que malheureusement ça a fait que l'équipe de Koji Igarashi a dû plier.
Mais dans Lord of Shadow, il n'y a pas, en tout cas dans le premier, il n'y a pas Alucard.
Non, c'est dans Mirror of
là,
Fate.
Là, la vidéo qu'on a vue, c'est pas Alucard.
Non, mais elle est classe quand même.
Oui, c'est sûr, mais il apparaît à la toute fin de cette vidéo-là, mais sinon c'est pas
C'est un
Alucard.
Autre Alucard, de toute façon c'est une autre timeline. Donc,
c'était Gabriel Belmont.
Ouais,
d'ailleurs, moi je vais faire hurler les fans, j'en ai rien à foutre, mais... pour moi, Gabriel est passé devant en termes de classe, de personnage, au niveau de son histoire, etc. Je trouve que Gabriel, moi, il m'a vachement marqué.
Il brûle ton esprit ?
Ouais, ouais, c'est vrai.
Gabi, Gabi, Gabi.
Non, non, mais Nabi, franchement, Nabi. Gabriel, avec son histoire telle qu'elle est développée, en tout cas dans le premier épisode de Lords of Shadow, enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a
mais
tout.
C'est la
quoi.
Fin aussi.
Il y a tout dans ce personnage. Il est classe, son design est vraiment bien, ses freins
sont tragiques.
Son arme est géniale. Ouais. Voilà, le destin est totalement tragique, avec le fameux retournement de situation à la fin et tout ça. Enfin, je sais pas, moi je trouve que
c'est vrai. Tu préférerais Gabriel à Alucard,
ouais.
Par exemple.
Ouais, ouais, je le dis.
Ah, mais moi je sais pas.
En termes de design, Alucard est plus classe, plus élancé.
Plus classe,
et tout, mais en termes de,
ouais.
De profondeur de personnage, Gabriel est très intéressant.
Alucard est bien aussi, hein, je trouve. Hein. Il s'étale sur plusieurs épisodes en plus. Et puis le trait d'Ayami Kojima pour Alucard, quand même, il est. Enfin, pour moi, c'est le plus beau personnage qu'elle ait créé.
Esthétiquement, il est somptueux.
Il a tout, il a la. Comment dire, la richesse, l'aristocratie dans ses vêtements. Il a le côté vampirique, évidemment, un petit côté efféminé.
Si tu veux le montrer, Poufy, il doit être à la toute fin de cette vidéo.
Ouais, ça c'est le.
Mais
ouais,
vraiment à la toute fin.
Tu peux voir le Alucard version Mercury Steam.
Ils se font face à face.
Ah, c'est peut-être pas dans celle-là. Hein. C'est peut-être
Normalement, c'est le après-générique. Enfin, le voilà.
Oui,
tu verras jamais vraiment de face. Hein, mais
alors
bon.
c'est pas la même histoire.
Oui, mais bon.
Mais c'est quand même Alucard, quoi.
Il est sympa.
On le voyait dans l'épisode sur 3DS, je crois que tu l'as dit aussi, dans Mirror of Fate.
Là.
Et Lord of Shadow 2. Avec un DLC qui lui est entièrement consacré dans Lord of Shadow 2, d'ailleurs. Et qui était un excellent DLC. Bref, tout ça pour dire, Alucard, c'est la méga classe. Voilà.
Okay.
On va passer à toi, Alain. Toi, c'est on va rentrer dans le plus viril là tout de suite, parce que c'est Max Payne.
Max Payne,
qui en 3 épisodes t'a complètement convaincu.
Ah oui, moi ça, j'ai craqué évidemment pour les jeux depuis le début. Il faut pas oublier que le premier c'était l'invention du bullet time, hein, qui était quand même pour moi un grand événement. Pour un type comme moi qui aime bien bourriner, c'était vraiment quelque chose de pouvoir bourriner en cinémascope. Mais j'aime vraiment le personnage de Max Payne parce que vraiment, il y a cette ambiance, c'est un anti-héros vraiment par excellence. Il est de la police, sa femme se fait tuer, sa fille se fait tuer. Après, il devient alcoolo complètement et puis il déglingue à peu près tout ce qui passe. Bref, j'aime vraiment ce personnage, je trouve qu'il swing vraiment. Et j'apprécie particulièrement ce qu'a fait Rockstar, puisque Rockstar a repris le personnage au 3e épisode. J'espère du reste qu'il y en aura un 4e, un 5e, un 6e,
ils ont abandonné côté comics série noire,
oui, voilà,
des deux premiers
qui est pourtant très sympa, mais ils ont développé vraiment le personnage. J'ai beaucoup aimé le truc qui traverse globalement à peu près toute la mission en étant totalement bourré, et du reste c'est très bien rendu par cet effet de flou dans certaines scènes d'action. D'un seul coup les mecs arrivent pour enlever les gens et il doit sortir son flingue, il est complètement bourré et en même temps tout trouble. Moi je trouve ça vraiment vraiment très intéressant. Bon, c'est un anti-héros vraiment vraiment intéressant qui a vraiment une dimension. Du reste, il y a eu un film qui a bien marché, mais qui était, je ne suis pas trouvé vraiment que ça lui rendait
avec
justice.
Mark Wahlberg,
c'était bien ça.
Non, il était vraiment très bien. Mais ça a plutôt bien marché.
Bien,
ils ont fait un bon carton, paraît-il, aux États-Unis. Toutes les critiques étaient très mauvaises et à juste titre, mais le film a bien marché. Donc je pense que c'est un personnage vraiment intéressant. Du reste, il n'y a pas tant que ça de personnages de jeux vidéo qui inspirent des films, surtout hors d'une longue, longue série. Après tout, il n'y a eu que 3 épisodes. Mm-hmm. Et donc je pense vraiment, pour moi, c'est un personnage auquel je suis très attaché, autant lui que les 3 jeux que j'ai adorés et que j'ai tous rejoués des tas de fois.
Et pour la petite anecdote, Poufy, si tu peux faire un arrêt sur le visage de Max Payne, en tout cas dans les 2 premiers épisodes.
Juste le premier.
Ouais. C'est le visage de Sam Lake,
qui est
le réalisateur, le scénariste du jeu, quoi, qu'on a retrouvé sur Alan Wake.
Ce qui est sympa avec Sam Lake, c'est que même maintenant, tu lui demandes de faire la tête de Max Payne, il te l'a fait avec plaisir, quoi. Quand on te redemande la même chose tout le temps pendant des années, au bout d'un moment, tu pourras en avoir marre. Et là, lui, il n'a aucun problème avec ça.
You're talking to me.
Il a bien plissé le visage.
Mais je trouvais qu'il était plus convaincant que Wahlberg.
Ah oui, il n'y a pas photo.
Parfois, moi, je suis très d'accord avec Alain au sujet de Max Payne 3. Je trouve que Rockstar a repris le truc d'une manière brillante.
Absolument.
Et on sent bien que ce sont les frères Hauser et surtout
Dan
Hauser qui a écrit Max Payne 3. La manière d'expliquer la situation dans laquelle est Max Payne dans ce 3e épisode, ça se fait progressivement. Et ensuite, vers la fin du jeu, tu comprends qui lui est arrivé, enfin la situation dans laquelle il est au début, d'une manière super, super maligne. Et le personnage est vraiment très intéressant dans Max Payne 3. J'ai vraiment beaucoup aimé le troisième épisode.
Ils ont vraiment poussé encore plus loin le personnage. Ils n'ont pas dénaturé. Ils ont dénaturé en aucune façon le personnage qui existait déjà, mais ils l'ont développé, ils l'ont fait prendre une dimension extraordinaire.
Et je trouve que ce qui est bien, c'est que ça a permis, Max Payne 3 a permis aux frères Hauser de se libérer des contraintes de GTA. En termes de narration et de sujets traités, ils ne pouvaient pas forcément le faire dans un GTA parce que ce système de ville ouverte et de thématiques reprises. Là, dans Max Payne 3, ils ont tenté autre chose et c'est vraiment réussi. Je trouve que le jeu est un. Enfin, il a pas trop mal marché, mais je trouve qu'il aurait mérité d'être plus vraiment. Connu que ce que.
Moi, c'était
ce
mon jeu préféré de l'année. Il était vraiment bon. C'était un grand.
Puis c'est finalement assez rare d'avoir des séries dans lesquelles, il y a un changement vraiment de développeur, mais surtout qui reprend le personnage et le change un peu. C'est un peu Breaking Bad finalement, à la fois dans l'histoire avec une descente aux enfers encore plus fort,
le design,
et physiquement aussi. Il lui change les codes de ce héros, quoi. Il se rase la tête.
Il est pas plus gros,
il est un peu plus costaud.
L'alcool et les antidépresseurs. Ça fait gonfler.
Même si j'aime beaucoup le style de Sam Lake, je trouve que finalement, vu le passif, l'histoire du personnage, je trouve que son look dans le troisième colle plus au caractère du personnage et à son vécu, en fait. Vraiment, si vous avez l'occasion de vous faire Max Payne 3.
Il est souvent en ristourne à des prix absolument dérisoires.
Ouais, sur Steam.
C'est quand même un héros qui, de bout en bout, épisode après épisode, a vraiment une vie de merde.
Complètement.
Mais dans le 3, c'est un enchaînement de pas de chance qui est quand même assez.
Ça tombe
assez
bien, ça concerne le prochain personnage dont nous allons parler qui est attribué à Julo.
Oui.
C'est pareil, hein, lui, des merdes dans sa vie, il en a eu beaucoup, mais.
Ouais.
Comme il est italien, ça passe. Ça passe toujours mieux, ça passe avec le sourire. Et
donc,
il a la classe.
On parle d'Ezio Auditore da Firenze. Donc, finalement de la seule trilogie qui est dans la série Assassin. Parce que d'habitude, c'est un épisode, un héros. La seule exception, ça a été pour Ezio. Et c'était une bien belle idée au final de la part d'Ubisoft. Pourquoi ? Parce que ça a permis de vraiment développer le personnage. Qui est déjà de base, je pense, le plus intéressant de tous ceux qui ont été créés pour Assassin's Creed, et qui en plus a pu profiter donc de véritablement trois jeux et donc trois périodes de sa vie. Et on sait tous que, par exemple, la différence entre les séries télé et puis les films de cinéma, c'est ça aussi, c'est l'attachement que tu peux avoir progressivement au personnage. T'as plus de temps pour les développer et aussi plus de temps pour les voir évoluer, etc. Donc on part vraiment d'un personnage
tête à claque,
donc un bourreau des cœurs, donjouan, qui vit dans une famille riche, qui a pas de problème dans la vie et qui chasse les jolies nanas, etc.
Un playboy.
Voilà, un playboy qui pense pas à grand chose d'autre.
Le mec, c'est le romain typique, quoi. Voilà. Il fait ses petits tours à Vespa et dit ciao en regardant
c'est
les
filles.
C'est
ce qu'il fait, c'est ce que je fais tous les jours avec sa Vespa et tout. Ses parents se font lâchement assassiner. Il y a un complot, etc. Il devient un assassin et il passe tout ce premier épisode qui est Assassin's Creed 2 à vouloir se venger. Donc c'est vraiment la pulsion qui l'anime le plus, qui se transforme petit à petit sur la fin et qui, dans le deuxième épisode et dans le troisième, prennent des virages complètement différents. Dans la deuxième, il va plus chercher
C'est Brotherhood d'abord.
C'est Brotherhood, c'est ça, Assassin's Creed Brotherhood. Et il va plus chercher en fait les racines de son ordre, l'ordre des assassins, et donc changer petit à petit dans sa vision globale du monde, partir de sa petite vengeance personnelle pour un objectif plus grand. Et puis dans le troisième épisode, ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est dans celui-là, c'est que là on voit la vieillesse d'un héros en fait. C'est-à-dire c'est toujours le héros, c'est toujours le mec qui va grimper au mur, etc. Mais il est vraiment fatigué, il est vraiment sur le déclin, sur la fin de sa vie, mais il veut aller au bout et recoller les morceaux avec un personnage de la saga qui était pas intéressant parce que c'était celui du premier épisode et qu'à l'époque c'était pas vraiment assez centré sur lui, son histoire, etc. Mais du coup l'histoire d'Altaïr a été retravaillée aussi au fur et à mesure que Ezio s'intéressait à lui dans les épisodes suivants, et donc on recolle tout à fait les morceaux dans le dernier épisode qui est Révélation. Et là il se passe un truc vraiment génial où c'est bon, de Assassin's Creed 2 jusqu'à Révélation, souvent les développeurs aimaient bien casser le quatrième mur, comme on dit, c'est-à-dire impliquer le joueur d'une manière ou d'une autre dans le récit même du jeu. Et là, dans Révélation, on le voyait à la fin, lui et Ezio vieillissant, qui voulait mourir finalement, mais qui voulait finir certaines choses avant de mourir, et qui se retrouvait avec le fantôme d'Altaïr et plus ou moins celui de... comment il s'appelait ? Celui de... le héros dans la vie réelle,
Desmond,
ou Nagui. Nagui. Lui aussi, il a changé de tête tout le temps. Lui, c'est un mauvais héros. Lui, hein,
par contre, il louchait toujours autant.
Ouais, ouais. Et donc, se retrouver avec lui, et donc à travers lui, toi, le joueur, et on se retrouvait tous dans un endroit comme ça qui allait sceller le destin d'Ezio. Franchement, je me suis beaucoup attaché à lui. Du coup, je trouve que c'est un héros génial. Je parlais d'héros vides et d'héros pleins au début. Lui, c'en est un qui est plein et qui est plein de surprises, etc. Et auquel tu t'attaches, voilà, tu repenses à lui une fois les jeux pliés, etc. Et quand tu repenses à ces jeux-là, tu repenses avant tout à lui, en fait. Mmh. C'est le personnage qui ressort. Là, c'est typiquement pour ça que c'est un de mes héros préférés. À noter qu'il a été développé même au-delà des jeux, dans un petit court-métrage d'animation qui s'appelle Assassin's Creed Embers, qui s'intéresse là vraiment aux toutes dernières heures de sa vie. C'est là qu'on le voit mourir, en fait, hein. C'est pas dans Révélation, c'est dans ce court-métrage.
Cool pour le spoil, merci.
Non, mais c'est le sujet, hein. C'est le sujet, c'est voilà, vivez les dernières heures de Ezio. Donc là, il est très très vieux, méconnaissable, avec une barbe, etc. Il s'est retiré dans une petite bergerie en Italie.
C'est quand même dommage de ne pas avoir mis ça dans le jeu à proprement parler, quoi.
Ouais, ça a été développé après, quoi. Je pense qu'à mon avis,
c'est intéressant, tu sais, vivre la mort du héros, c'est quelque chose qu'on fait assez.
Mais c'était déjà plus ou moins le cas dans Révélation, sauf qu'on ne voyait pas réellement mourir, mais on voyait que voilà, c'était fini. Il attendait cette dernière chose avant de raccrocher les lames secrètes et d'aller mourir en paix, quoi. Et cette mort en paix, tu la vois là. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, si vous vous intéressez à la saga, c'est qu'il y a une série de jeux qui a été annoncée là, différente, hein, sur un plan 2D, etc. Comment ça s'appelle ?
Chronicles,
voilà. Dans lequel il y aura trois périodes et trois nouveaux héros. Le premier de ces héros-là, ça va être une jeune femme chinoise, assassin chinois, qui, en fait, qu'on croise dans Assassin's Creed Embers. C'est Ezio, dans les dernières heures de sa vie, qui la forme à devenir un assassin. Donc voilà, la boucle est bouclée.
Eh bien,
d'accord. Mais c'est un super héros, quoi. Voilà, moi, j'adore.
Bon, normal en même temps. Avec ses
et en
origines.
Plus, il est italien.
Oui.
Parce qu'on l'a pas dit.
Oui.
Et il a la classe. Il a la méga classe. Parce que
il aurait pu s'appeler Aldo, en fait, quand on y pense.
C'est clair. Il aurait pu marcher comme ça. Et tout. Non, mais le truc, c'est que ces fringues aussi. Je sais pas si vous vous souvenez de tous les artworks qui ont été faits. Les fringues qu'il a dans Assassin's Creed 2, Brotherhood et Révélation, elles ont juste la méga classe.
Ouais.
Il a des costumes de grande classe.
Bah, un bon costume florentin, Renaissance. Bien sûr. C'est ce qui te ferait kiffer.
Ouais, faudrait que je me pose la question. T'as raison.
Ok. Julien.
Oui, bonjour.
On va commencer de ton côté avec un personnage qui n'est pas très connu, qui aurait mérité peut-être une plus d'exposition. Malheureusement, ce jeu n'est sorti que sur Xbox 360. Il s'agit du personnage principal de Lost Odyssey.
Quel grand jeu.
Kaïm.
Quel grand jeu et quel super personnage, effectivement. Donc c'est l'un des derniers gros RPG de Hironobu Sakaguchi, qui, à mon sens, là, a vraiment réalisé un superbe scénario. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un héros qui est immortel, donc qui a traversé les temps, comme ça, de millénaire en millénaire. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup, on va vivre vraiment plusieurs temps dans sa vie. On parlait à l'instant, là, avec Assassin's Creed Revelation, de la mort d'un héros phare du jeu vidéo. Bah là, on va vivre difficile de spoiler ou pas spoiler, enfin, mais enfin bon, des morts de très proches de Kaïm, des gens même qu'il va retrouver alors qu'ils pensaient qu'ils étaient morts, soit ils avaient perdu leur trace. Et le joueur va vraiment vivre ces moments, et c'est très très bien écrit. Ça donne de l'étoffe au personnage qui, en plus, globalement, a quand même plutôt la classe et qui est très dans les FF. Vous savez, il y a certains héros qui sont, je trouve, un peu taciturne. Je pense par exemple dans FF8, le héros, il dit pas grand chose, Qual, etc. Il est très introverti, bon, blablabla. Moi, il m'a un peu fait chier. Lui, il est aussi assez fermé, mais c'est totalement différent. C'est-à-dire qu'il est vachement en empathie avec les gens, et ça passe aussi beaucoup par des écrits. Alors là, c'est vraiment plus le jeu à proprement parler, mais qui du coup permettent de découvrir sa vie à lui. Parce que lui, il a vécu tellement de choses. Il s'est marié plusieurs fois, il a vu, bah, du coup, ses différentes femmes mourir, ses enfants mourir dans ses bras, etc. Et lui est toujours là, et ça traite énormément le fardeau de l'immortalité, parce que tout le monde dit « Ah, super, j'ai envie d'être immortel, blablabla. » Oui, bon, bah d'accord, mais enfin, sauf que si tu es le seul immortel, eh bah, tu dois vivre
avec la mort de tes proches. Ad vitam aeternam. Pour ceux qui ont des animaux et qui ont peut-être perdu des animaux de compagnie, etc., c'est très douloureux. Alors là, je ne parlerai évidemment pas de perdre des proches de la famille et machin. Mais c'est des petites choses par rapport à un immortel qui, lui, va le connaître plein de fois. Et c'est très bien traité, de manière assez subtile. Le personnage a du coup beaucoup d'étoffe, beaucoup de dignité. Au-delà de ça, ludiquement parlant, il se bat super bien, il est plutôt cool. Mais justement, moi j'ai trouvé que c'était un jeu...
Un petit côté un peu Destroy et Crado, je dirais, par rapport aux autres héros très propres sur eux. Il a les cheveux un peu gras.
Mais il a la noblesse, quoi. Il est quand même genre un peu prince, etc.
Je pense que c'est par rapport plus au caractère design aussi.
De Inoue.
Et il porte sur lui une certaine douleur. Takehiko Inoue, qui était l'auteur de Slam Dunk.
Bande son de Nobuo Uematsu, absolument remarquable, qui dans les thèmes les plus sensibles justement soulignent la peine,
ça, c'est
la
un
nostalgie,
jeu
etc.
Sans parler des lettres,
que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, véritablement, ça en fait et un grand jeu et au cœur de ce jeu, un grand personnage de jeu vidéo qui pour
méconnu.
Moi est extrêmement, oui, extrêmement méconnu, sous-côté, le jeu est sous-côté
complètement,
et le personnage du coup un peu méconnu, et il mériterait, moi je trouve qu'il fait partie des grands du RPG japonais.
Qui figurait dans notre top de ces jeux qui n'ont pas eu le succès mérité.
Allez, Microsoft a une version HD de Lost Odyssey sur Xbox One.
À Gameblog, je l'avais énormément soutenu, j'avais mis 5 sur 5 à l'époque, là où il s'était à peu près massacré chez nombre de nos confrères pour des raisons techniques.
Quand j'étais chez Pad,
parce que les temps de chargement étaient un peu longs, etc. Bon, d'accord. Mais bon, après, tout ça est très subjectif. Mais en tout cas, si vous avez la chance d'avoir encore une 360, le jeu ne doit pas être trop cher maintenant, ou peut-être que du coup, sa cote est montée, parce qu'il ne doit pas être livré à beaucoup d'exemplaires. C'est une très, très belle aventure avec un très beau personnage.
En tout cas, c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'en ai entendu parler comme tout le monde, je me suis pas renseigné plus que ça sur le personnage. Mais là, ta manière d'en parler, ça m'a vachement intrigué pour le coup. Cette histoire du fardeau de l'homme immortel, je trouve ça vachement intéressant. Et c'est vrai que même quand tu regardes la série Highlander ou des trucs comme ça, ils l'évoquaient, mais c'était toujours vraiment survolé. Ouais. Tu savais que c'était dur à vivre pour eux, mais genre,
au final,
15 secondes, quoi. Après,
tu veux plus t'attacher aux gens. Après, c'est ce qui explique le côté un peu taciturne, etc. T'as pas envie de revivre des douleurs comme ça. Quoi.
Tu vois toute ta famille mourir.
Et il rêverait de plus l'être d'ailleurs, immortel. Hein. Lui, l'un de ses trucs, c'est je ne peux plus de ce fardeau. Quoi. Enfin, il le vit comme un fardeau.
Bon, en parlant de fardeau, Romain, non, rien à voir, je te rassure. Passer à ton deuxième perso préféré. Alors,
tu
c'est...
les as mis dans l'ordre dans lequel je te les ai envoyés ou...
Non, pas du tout. On a fait un petit classement totalement hasardeux.
Alors, dis-moi de qui je vais parler maintenant.
Tu vas parler d'un mec qu'on a. Un mec qui, tu vois, il hésite pas. Quand il y a des trucs à dire, d'abord il met des coups de poing et ensuite on verra si on discute.
On tape d'abord, on discute, ensuite.
Il s'agit de Kazuma Kiryu.
Ouais, alors encore un héros, je pense pas qu'il est extrêmement connu chez nous. C'est, pour ceux qui ne savent pas, Kazuma Kiryu, c'est le héros de Yakuza, de la série Yakuza, écrite par Toshihiro Nagoshi. Et c'est un Yakuza au grand cœur. Tu sais, ça fait penser un peu à Jean Reno dans certains films des années...
Dans Léon,
années
pas
dans Léon. Hein.
Voilà, un peu dans ce genre-là. En fait, c'est un mec qui a beaucoup, beaucoup d'honneur, qui a fait de la prison, qui a porté le chapeau, mais volontairement...
C'est le Alain Juppé japonais, un peu, en quelque sorte.
Qui a porté le chapeau pour un crime qu'il n'a pas commis. Il a fait, je crois, si je me souviens bien, au début de Yakuza, il fait 10 ans de prison. Et ensuite, il sort... Et il essaye de se ranger, mais bien sûr, il se retrouve à chaque fois impliqué dans les affaires de sa famille Yakuza, etc. Et il a une très grosse voix, mais il a un bon fond. Il va recueillir la fille de sa meilleure amie qui est décédée, il va s'occuper d'elle. Et le pauvre mec, il demande qu'à avoir une vie simple, il se fait emmerder toutes les 5 minutes. Parce que c'est le gameplay de Yakuza, tu te balades dans la rue et t'as des bandes de Kaira qui vont te tomber dessus toutes les 5 minutes.
C'est tellement le problème de Yakuza, ça.
Et tu distribues des pains derrière, les uns derrière les autres. Mais il a vraiment un bon fond. Par exemple, dans Yakuza 3, il ouvre un orphelinat. Parce que lui-même a grandi dans un orphelinat. Mais non, mais c'est vrai, dans une grande partie de Yakuza 3... Tu dois faire des quêtes en rapport avec les enfants de l'orphelinat. Tu dois les aider, tu dois être comme ça. Et donc c'est un personnage qui cogne, mais qui n'a pas que ça. Et dans Yakuza, il y a une grande part accordée au scénario et aux cinématiques, etc.
À l'émotion.
Donc voilà, et donc tu apprends vraiment... Bon, après, Après, ça peut être un peu kitsch au sens où ouais, les Yakuza sont pas tous si méchants que ça, tu vois. Enfin, c'est, tu sens clairement que un des boss de Sega, c'est un mec qui trempe un peu dans
c'est
le.
C'est pas lui qui a eu un petit problème voilà, il y a pas longtemps. Ouais.
Et donc tu te dis c'est bizarre, Sega est racheté. Et le nouveau patron, un mec qui a des liens un peu louches avec les Yakuza, et d'un seul coup ils se mettent à faire une série de jeux où les Yakuza sont tous des gentils. Enfin, ils sont pas tous gentils, mais bon, c'est un peu curieux. Et franchement, déjà si le Japon vous intéresse, parce que finalement il y a des choses assez crédibles vis-à-vis de l'univers des Yakuza, que vous avez envie de découvrir Tokyo, Osaka et des villes comme ça, bah Yakuza c'est une bonne série pour le faire. Et le personnage de Kazuma a la classe, même s'il change pas de costard pendant les 4 premiers jeux, ça reste un personnage très intéressant.
Voilà. Très bien,
il fait des belles prises de catch en plus.
Vous savez quoi, le deuxième personnage dont
d'ailleurs,
je vais parler,
juste avant, dans Yakuza 3, pour faire plaisir à un des gamins de l'orphelinat, il met en scène un combat de catch contre un de ses potes et il se déguise en catcheur avec un masque, etc. C'est vraiment sympa.
Quel homme super sympa, ce Kazuma Kiryu.
Ben, malheureusement, le truc, c'est qu'en France, le jeu a jamais été traduit en français. Donc, c'est toujours voix japonaise, enfin, à part le premier, mais c'est voix japonaise, sous-titres anglais. Et comme il y a beaucoup de textes et beaucoup de dialogues.
Ah, même les sous-titres n'étaient pas en français.
Non, sauf dans le premier. Le premier, ils l'avaient fait, mais comme ça n'a pas assez bien marché, ils ont réduit les coûts de traduction.
Putain, franchement.
Et c'est même pour ça que maintenant, les Yakuza.
Ils ont réduit de 10 euros les coûts.
Non, apparemment, ça coûte très cher. Parce que c'est
non,
vrai
pas les sous-titres.
Ah si, la traduction à faire, ça
vous
coûte très très cher.
Tout à l'heure, là, j'ai l'impression. Les
pardon, excuse-moi.
Vous êtes en train de repartir sur un autre sujet. À la prochaine fois, je vous apporte du thé. Hein.
Je pense qu'on peut retirer un point pour les quiz. Pour les protagonistes
les comptes,
de ce
en fait,
duel.
Hein. Toi, alors, tu vas en perdre deux pour avoir dit ça.
Vous avez 8 points chacun, je crois.
On va se battre. Oulala,
j'en ai 5. Je suis en embuscade.
Au début, tu m'avais bien dit que tu voulais de la compétition un peu.
Et j'en suis ravi.
Et ben voilà.
J'en suis ravi.
Bon. On va passer à mon deuxième personnage maintenant, qui est un peu dans la même veine que Kazuma Kiryu, à savoir qu'on aime bien l'emmerder alors qu'il n'avait rien demandé. C'est John Marston, le héros de Red Dead Redemption. Alors, j'ai eu plusieurs discussions. Des
meilleur
fois,
jeu de la génération.
C'est un peu
meilleur
même jeu style de bonhomme. Hein. Ah, Kazuma et John Marston, il y a des points communs.
Il y a beaucoup de points communs. Alors, moi, on m'avait dit que par rapport au jeu, il faisait un peu paillasse par moment, parce que, t'imagines un cow-boy, le mec, c'est un dur, c'est un bandit, il fait des quêtes pour tout le monde. Oui, mais
c'est un jeune bandit.
Il veut se racheter.
Ben voilà, c'est la rédemption. Donc,
il veut se racheter absolument. Il veut absolument qu'on arrête de l'emmerder, lui et sa famille. Et pour ça, il est prêt à tout. Et du coup, il se coltine des trucs qui sont parfois un peu rabaissants. Mais en attendant, John Marston, il a déjà un design d'enfer.
Non, mais blague à part, on est en train de revoir les images si vous êtes premium avec nous. Mais ça n'a pas vieilli, en fait.
Non.
C'est
ce jeu
juste ouais, alors, absolument super, incroyable.
Mais c'est le meilleur jeu de tous les temps pour moi.
La suite, vite.
Et
Moi, j'aurais tendance à me dire que ça y est, GTA 5 PC est sorti. Ils en ont fini avec GTA 5.
Ouais, tu penses qu'il y aura
peut-être qu'il y aura du DLC scénarisé, mais enfin, ce qui est certainement très probable. Mais je pense que maintenant, il serait temps d'annoncer Red Dead 2.
Quoi. Ouais, effectivement. Ne serait-ce que pour revivre le même genre d'équipé sauvage avec le sentiment d'être un cow-boy vraiment, mais qu'il y a tout le monde contre lui, qu'il n'y a rien qui lui sourit et qui se retrouve témoin de trucs, par exemple des passages au Mexique, là je me rappelle, où il se retrouve pris avec les chefs de la guérilla qui sont des ordures finies. Il y a des passages absolument géniaux avec où on sent qu'il y a un début de flirt avec la fermière là, je me rappelle plus au début, où on se dit
j'ai adoré ce passage.
Ouais,
c'était
et tu te dis
bon,
c'est bizarre, il y a une espèce de connivence entre
il y a une petite tension sexuelle et tout.
Alors non, que lui non, il est marié et d'ailleurs c'est d'ailleurs un perso qui se fait aborder par des prostituées dans certaines villes,
non,
où
génial.
Il arrive en disant, il dit non, désolé, moi je suis marié, madame.
C'est génial.
Enfin, un personnage
qui
voilà,
est droit à tous les niveaux en fait. C'est ça.
Exactement, qui est droit, qui est parfait, qui veut vraiment en finir avec cette vie de
merde. Non mais qu'est-ce qui n'était pas bien dans le jeu?
Effectivement, il y a quelques petites quêtes qui sont pas terribles quoi. Enfin, je veux dire, à aider un mec à retrouver un papier pour sa maison, je sais pas quoi. Enfin, t'as pas envie de faire
mais
ça.
C'est l'Ouest,
il
y a des gens comme ça qui méritaient qu'on retrouve des papiers pour leur maison.
Ouais, non, mais c'était chiant à jouer pour certaines missions. Je me fais l'avocat du diable. Hein. Vous semblez chercher quelqu'un.
Ah ouais,
donc,
moi, Marston, vraiment, c'est pour moi, c'est voilà, c'est. Je voudrais plus qu'il y ait des gens comme lui sur Terre. Que des gens comme.
C'est vrai qu'il y ait plus de cowboys sur Terre.
Que comme qui? Que comme George Top? Non, ouais, que comme. Ouais, plus que comme George Stobart en fait, voilà. Désolé, je l'ai pris au hasard. Mais c'est vrai qu'un bon Marston partout.
Bah, Ezio, c'était un mec bien.
Ouais, mais Ezio.
Ah, c'est un mec bien.
Ouais, ok, d'accord. Bon, en tout cas.
C'est un assassin
voilà.
quand même.
C'est l'occasion de rejouer à Red Dead si vous l'avez pas fait.
Stobart, il tue personne.
Puis il avait une classe. Ouais. Enfin, physiquement, tu sens le mec abîmé.
Sa voix aussi.
Sa voix était géniale.
Ouais, et puis, c'est pas banal les jeux de western, quoi. Voilà. C'était c'était sublimé, quoi. C'était le western sublimé en fait, parce que t'étais là dans un monde ouvert et tout était magnifique.
J'avais lu un papier dans la revue du MK2. Je me rappelle, c'était Étienne Rouillon qui l'avait signé, qui avait dit que c'était peut-être le meilleur western qui était jamais sorti ces dernières années. Film et jeu compris, hein. Ouais. Et je pense qu'il y avait largement ça. Hein. Mais alors, largement.
Et puis quand tu peux enfin acheter le poncho et que tu peux être blondin, quoi, en gros, tu kiffes tellement. Quoi.
Et puis que tu peux être le héros de Red Dead Revolver aussi. Parce qu'il y avait la skin du héros de Red Dead Revolver qui a les mêmes marques ici d'ailleurs. Hein. C'était le truc pour faire le lien. Enfin bref, tout ça pour dire, John Marston, on t'aime, on voudrait bien te revoir d'ailleurs.
Absolument.
Au passage. Je sais pas si c'est possible.
Bah alors, si nous le font venir, ça implique forcément quelque chose.
Ah bah une préquelle, on sait jamais.
Voilà, bon, puisque c'est le festival du spoiler.
Bah ouais, là, c'est bon, là, t'as spoilé tous les gens.
Non, j'ai rien spoilé du tout.
C'est marrant parce que quand on parlait des héros, du fait que peu de héros meurent dans les jeux,
tu veux pas non plus dire que Goku il va avoir les cheveux bleus dans le prochain film, non?
Non, je le dirais pas.
C'est comme au cinéma, c'est-à-dire que 15 ans après, si tu parles du sixième sens, c'est quand même compliqué de pas parler du twist et machin, etc. Je veux dire, les jeux, enfin les œuvres sont aussi faites pour être vécues, on va dire, dans une sphère de 1 ou 2 ans autour de sa sortie, quoi. 15 ans après,
moi je pense que tu peux jouer à Red Dead aujourd'hui. Hein.
Ah non, mais évidemment, mais je veux dire, nous publiquement dans notre métier, c'est quand même compliqué de rien dire sur ces sujets-là. Quoi.
Ce podcast contient des spoilers.
Bah oui, attends, voilà.
Oui, il y a des spoilers, c'est pas grave. Julien, tiens.
Ah, c'est moi.
T'as pas un petit spoiler?
Bonjour.
On va revenir vers toi parce qu'on va toucher un peu on va apporter une petite touche de féminité. C'est vrai que les héroïnes,
ça, toujours faire appel à Julien pour ça.
C'est pas ce qu'on a de plus présent. Et pourtant, tu es le premier, tu inaugures les héroïnes avec l'héroïne de Beyond Good and Evil.
Ah oui.
Jade.
Jade.
Donc pas Jade Forêt, la femme de Arnaud Lagardère.
Qui est donc inspirée quand même de Emma de Caunes. Mm-hmm.
Doublée par Emma de Caunes.
Doublée. Ouais. Et le visage, globalement, c'est à peu près elle. Bon, après, c'est un visage stylisé. Donc, production Ubisoft, un jeu de Michel Ancel.
Grand jeu.
Vraiment un superbe jeu dont je crois que vous êtes nombreux, tout comme moi, à attendre la suite qui a été évoquée, qui a été en travaux, qui galère un peu en ce moment. Alors pourquoi elle ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle porte le jeu admirablement bien. Elle est le lien vraiment avec ce monde assez imaginaire, coloré, mais en fait assez mature, avec des enjeux politique, avec des enjeux écologiques, avec des enjeux personnels, avec son oncle qui était un cochon. Le truc, c'est que dit comme ça, et quand tu regardes des images et tout, tu peux trouver ou penser que ça peut être un peu enfantin ou un melting pot qui risque de ne pas très bien fonctionner ensemble. Et ben justement, elle fait fonctionner tout ça à merveille. Elle est journaliste, elle est avec son appareil. Elle doit avoir sa carte de presse. Elle a son appareil photo. À l'époque,
comme nous, elle se bat avec un bâton.
Tout à fait. Ouais. J'imagine que demain elle aura un smartphone, quoi, si c'est une suite. C'était vraiment bien, elle était cool, elle était intéressante, elle s'exprimait pas comme tant de héros un peu teens à te raconter un peu de la merde et machin, ou à te faire des blagues super ironiques tout le temps. Non, elle était assez mesurée, tu sentais qu'elle était jeune en âge et un peu plus vieille dans sa tête. Donc je l'ai trouvée très intéressante, et j'ai trouvé que le duo qu'elle formait donc avec Paige marchait vraiment bien. Le côté un peu rigolard, un peu plus rigolard pour le cochon, et elle le côté un peu plus posé. Et ça fonctionnait bien, c'était un super jeu.
C'est un mystère qu'il n'ait pas marché ce jeu quand même.
Non,
c'est parce que les sorties de sa partie en même temps.
Et puis il y en avait d'autres. C'était une grosse fin d'année, il s'est fait bouffer quoi. Ouais. C'était une nouvelle IP, on connaît la difficulté à s'imposer quand on est une nouvelle IP.
Malgré une bonne campagne de pub et tout, elle était
bien.
Ils avaient fait toute la devanture, je me souviens, du Virgin sur les champs.
Non, mais il n'y avait pas grand chose. En vrai, en termes d'investissement marketing, par rapport à ce qu'il y avait en face,
par
c'était que dalle.
Je crois que toute la presse a été enthousiaste de façon délirante.
C'était la carte, le ticket d'entrée de Michel Ancel vers Peter Jackson pour l'adaptation de King Kong, hein, puisque c'est Peter Jackson lui-même qui était fan de BGE, qui lui a fait même dédicacer et qui a dit ton jeu il m'a plu, vas-y, fais-moi le jeu King Kong, et c'est grâce à ça que c'est arrivé.
Non, mais c'est comme
pas trop mal King Kong d'ailleurs.
Il était bien, non, King Kong était vraiment super. Mais oui, c'est un peu comme les jeux de Weda, quoi. C'est la critique est unanime, et puis ça suit un peu moins derrière.
Malheureusement.
Ouais. Ouais. Bon, sur sa fin de vie, finalement, ça s'est pas trop mal vendu, hein, parce que beaucoup, il y a de bouche à oreille,
ça s'est vendu,
de prix, etc.
De
quoi. Prix, ouais. Mais bon.
Bon, il y a eu le remake. Qui était pas
oui,
bah,
les remasterisations
fabuleux,
sur...
mais bon, qui était sympa, je vais rejouer du reste avec plaisir.
Ça reste un bon jeu, après, maintenant, il faut que sa suite transcende tout ça. Quoi.
Mais ouais. Oui, bien sûr, Jade reviendra, j'en n'en doute pas.
En 2024
non, 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 vous allez voir, je vous parie que sous 3 ans, elle revient. Je me mouille pas trop, comme
notez,
ça, en disant 3 ans.
En sachant que je crois qu'ils ont dévoilé le premier teaser en 2008.
Oui, c'était ça, j'y étais. C'est pas mal. Baby Days.
Exactement.
Je me rappelle
parfaitement. Au carousel
du J'étais avec Raon, on se tenait la main, on s'est fait des bisous. Raon, si tu nous regardes. Alain. On repasse tout de suite dans le viril avec toi. Et dans le viril, mais il y a du latex quand même dans l'histoire. Et c'est pas vraiment un héros de jeu vidéo à la base. Mais t'as voulu le mettre quand même, c'est Batman.
Oui, c'est Batman. Bon, j'y suis très attaché. Je suis très attaché à Batman. Évidemment, c'est un héros de comics avant tout. Mais enfin, quand même, il a sa place dans le jeu vidéo parce que depuis le début, il y a eu des Batman. Quoi. Sa carrière est totalement associée au jeu vidéo. Il y a eu. Depuis le Game Boy,
sur Amstrad, j'avais un jeu en 3D isométrie.
Il y en a eu des.
Sur Amiga, j'avais le.
Oui, absolument, sur PC Engine. Et puis récemment, enfin, les meilleurs jeux qui ont été faits sur Batman, c'est quand même récemment. Mais il y avait eu un très bon jeu aussi à l'époque sur
Super Nintendo.
Sur Super Nintendo. Ah ouais. Enfin bon, bref. Et bon, j'aime bien. Et je dois dire que je vais peut-être me faire des ennemis, même sans doute, mais je n'aime pas du tout les super-héros. Mais ce qui est bien, c'est que Batman n'est pas un super-héros.
Pas au sens.
Il n'a pas de super pouvoir.
Parce que ouais,
super
pouvoir,
des super gadgets.
C'est la carte bleue, quoi.
Ouais, voilà. Il a des gadgets, mais qu'il a fabriqués, etc. Mais il
n'a
pas de pouvoir, il ne vole pas, il ne traverse pas les murs.
J'ai l'impression de revoir le sketch des nuls de l'époque où tu as. Comment ça s'appelait la vie quotidienne des super-héros. Où tu as Spider-Man qui parle à Superman et qui dit putain, ce connard là, il a juste des thunes, nous on a des super pouvoirs, pourquoi tout le monde l'adore, etc.
Ouais,
ça fait exactement penser à ça.
Mais bon, moi, les super-héros, ils me gonflent quand même pas mal, que ça soit dans les jeux vidéo, que ça soit au cinéma, tous ces films avec Transformers et machin,
ouais.
Franchement, ça me gonfle grave. Alors que Batman, il y a une présence, il y a une dimension, et puis il n'est pas d'une pièce, il y a une... Alors ça dépend, il y a eu tellement de choses sur Batman que quelquefois il est assez monolithique, mais souvent dans des meilleurs BD de Frank Miller par exemple, il a un côté très sombre, très tourmenté, quoi. C'est pas juste le héros lisse, il y a justement ce côté assez noir et en même temps il tue personne, il reste quand même très clean, mais il est troublé, il a des sentiments de violence, de trucs qu'il arrive à maîtriser mais difficilement. Enfin bref, je pense que c'est vraiment un personnage intéressant et vraiment il a sa place totalement dans le jeu vidéo, quoi. Je veux dire, c'est évident. Et heureusement, la dernière série a été bien. J'attends vraiment avec impatience le prochain. Je sais
Arkham
pas ce que
Knight,
ça va donner.
Ouais, qui arrive en juin. Voilà. Là, on est tous comme des fous là.
Voilà. Et puis quand tu parles de Batman, tu parles aussi du Joker. Quand même.
Ouais,
pour moi, c'est quand même vraiment double.
Indissociable.
Quoi. Ouais, Batman, Joker sont deux personnages fantastiques, quoi, vraiment.
C'est là où tu vois le tour de force de Rocksteady, parce que c'est vrai que Batman hors jeu vidéo, c'est déjà un personnage intéressant, mais Rocksteady a réussi à transposer ce personnage-là et en faire un vrai héros de jeu vidéo avec des mécaniques de gameplay qui fonctionnent bien, créer une histoire qui marche aussi. Et c'est vrai que Batman, maintenant, dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est devenu vraiment un héros de jeux vidéo.
Absolument.
C'est plus qu'un super héros qui a eu le droit à des adaptations faites en parallèle à un film ou quoi que ce soit. Ça y en a perdu plus mot.
Ouais, parce que
il est tout rouge.
Non, mais comme à chaque fois que je mets une feuille sur cette foutue tablette, j'ai lancé un taisez-vous sans le faire exprès. Je pense que Sophie a dû l'avoir. Donc voilà, c'est tout. C'était l'instant où j'utilise un petit peu
l'instant
les petits sons. Batman, donc
le Dark Knight,
personnage indémodable et qui est devenu vraiment auquel on rend le mieux hommage, vous pensez tous les deux, parce que tu es président du fan club de Batman aussi, hein, Romain, dans les jeux de Rocksteady.
Je pense que c'est le super héros qui a eu le droit au meilleur traitement dans un jeu vidéo. Et c'est comme je le disais il y a deux minutes, je pense que presque pour une génération, c'est autant un super héros, enfin un héros de jeu qu'un héros de film finalement.
Oui, on n'a pas l'impression qu'ils ont pris comme d'habitude, il y a X-Men ou il y a ces machins, tel film, allez, on prend la licence et puis on fait un jeu de briques de broc, machin.
Il y a eu ça très souvent,
il y en a eu un paquet. Mais là maintenant, avec justement ces nouveaux jeux, il y a vraiment une vraie dimension. Enfin, c'est un vrai jeu qui n'a pas besoin d'un film ou d'une BD pour tenir la route.
C'est pas, tu vois, c'est pas, même si le jeu était pas mauvais, c'est pas comme Wolverine où ils se sont dit voilà le personnage, voilà le film, quel type de jeu on pourrait copier pour faire un jeu avec lui. Là en l'occurrence ils avaient fait une sorte de God of War like. Là Batman, ils se sont dit voilà, on a le personnage, on a une idée pour l'histoire. Comment créer un jeu autour de ça?
Et ils se sont rappelés que c'était le meilleur détective du monde. Il y a la partie enquête.
Il y a le côté combat avec son envie de mettre les mecs hors d'état de nuire sans pour autant les tuer, etc. Donc tu vois dans les chocs, dans les coups employés, ça marche. T'as le côté infiltration et t'as le côté torturé aussi. Je me souviens de la scène et j'arrive jamais à me souvenir si c'est dans le premier. Non, je pense que c'est dans le deuxième où quand d'un seul coup tu te mets incarné Bruce Wayne enfant.
C'est dans le premier en fait. On en avait parlé ensemble.
J'arrive jamais à me souvenir si c'est dans le premier ou dans le deuxième. Et ça c'est une scène de jeu vidéo qui est vachement marquante. Donc grosse réussite pour Batman ces dernières années en tout cas.
Très bien. Alors on va aller déterrer un autre personnage avec Julo. Et je parle de déterrer parce que c'est un personnage qu'on peut considérer comme mort aujourd'hui, qui ne reviendra plus jamais.
Faut jamais dire jamais.
Siri Uazuki, le héros de Shenmue.
Je voulais pas décevoir les gens. Il fallait.
Je pensais pas que t'allais le mettre.
Bah si, mais pourquoi pas le mettre? Enfin, je veux dire, voilà.
Bah, c'est pas parce qu'il est générique, peut-être, non?
Alors, tu sais, c'est un peu fait exprès, je crois, pour que le joueur puisse mieux s'identifier à lui, parce que lui, il est mi-vide mi-plein, c'est-à-dire que
moi, je l'identifiais à Hercule en fait, le copain de Pif, à cause du pansement. Mais
ouais,
c'est tout
à fait. Bah, c'est ce qui l'a inspiré, tu sais pas?
Ah bon?
Non. je sais pas, moi, c'est un personnage qui m'a vraiment beaucoup marqué, vous vous en doutez, parce que, comment dire, Shenmue, c'est un jeu qui rendait réel un fantasme que j'avais depuis toujours, et qui était celui que beaucoup de gens partageaient, surtout à cette époque-là où on était très dans la technique, c'était les débuts, les mondes ouverts n'existaient pas vraiment, il y avait toujours quelque chose qui, dans les jeux vidéo, qui nous bloquait, qui créait un mur, qui empêchait les choses d'être vraiment réalistes, etc. Et Shenmue, comme ça, il s'est dit, dans la folie d'un peu de technicien de Yu Suzuki, qui s'est dit, voilà, il faut que tout soit possible, qu'on puisse ouvrir chaque porte, qu'on puisse rentrer dans chaque maison, qu'on puisse interagir avec chaque objet qui est posé sur chaque table ou qui est présent dans chaque tiroir, etc.
Donc c'est manœuvrer un Fenwick.
Voilà, exactement. Malgré tout, le jeu commençait avec d'ailleurs la scène qu'on est en train de voir, avec, je veux dire, un moment très très fort avec un adolescent qui rentre chez lui, qui voit son père mourir assassiné devant ses yeux et qui va donc une fois encore partir pour une vengeance, comme Ezio.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de vengeurs dans ton coin.
Mais malgré tout, après ça, il y a une espèce de quotidien qui s'installe. Et tu rentres petit à petit dans sa peau et tu mets un peu de toi aussi en lui, et c'est ce côté effectivement un petit peu transparent du héros. C'était aussi un des petits défauts techniques du jeu, c'est que c'était magnifique de partout, mais souvent les expressions faciales étaient pas terribles, il avait du mal à dégager certaines émotions, etc.
Même ça, je crois que c'est volontaire, hein,
c'est un peu volontaire.
Je crois que le but, c'est qu'il est toujours très froid parce qu'il est tellement concentré
y a certains passages où j'ai trouvé que c'était un petit peu trop un petit peu trop froid, justement. Il y a des moments où il se passe des trucs de ouf et t'as envie de le voir gueuler ou quoi. C'est des trucs qui viennent pas trop, donc ça, c'est le petit côté frustrant. Mais malgré tout, c'est un personnage qui va aussi évoluer dans son sentiment de vengeance et qui va surtout partir à l'aventure. Moi, le jeu vidéo depuis toujours, moi j'ai besoin que ça me fasse voyager, tu vois, partir quelque part, super dans une quête, et où je puisse me dire déjà à l'avance, putain, je vais rencontrer plein de gens, il va se passer des trucs, je vais aller à tel endroit, peut-être dans tel endroit. Donc dès le début, tu sais qu'il y a un rapport avec la Chine, que tu vas plus ou moins y partir. Ça parle d'arts martiaux, tu vois, quand j'étais gamin, comme tous les gamins, j'adorais les films d'arts martiaux, parce que t'as tous les clichés dans Shenmue, le vieux maître qui t'apprend des coups, qui te resserve plus tard, le mec qui est méchant qui devient en fait ton allié, avec qui tu te bats à la fin, dos à dos, enfin tu vois, il y a plein de clichés comme ça.
Et en même temps, une histoire dans le fond qui est super. Et puis, je te dis, une implication du joueur dans une aventure, quoi. Et Ryo, il incarne toute cette aventure. Et donc, c'est un personnage.
Avec son blouson en cuir. Hein.
Ouais, alors, un peu comme, comme tu parlais de Kazuma Kiryu. Ouais. Lui, il se change jamais. Il y a des toilettes dans le jeu, tu peux rentrer dans les toilettes, mais il va pas aux toilettes, il se douche pas. Mmh. Il dort tout habillé. Voilà, en basket et tout ça. Mais bon, voilà, je sais pas. C'est,
Et le truc, c'est que dans le premier Shenmue.
C'est un personnage aventure, quoi.
Dans, ouais. dans le premier Shenmue, en fait, tu peux apprendre à le connaître si tu le souhaites. T'es pas obligé, en fait.
Ouais,
en,
c'est vrai.
Si tu t'intéresses à son quotidien, tu vas apprendre à connaître ses amis, tu vas apprendre à connaître ses habitudes, tu vas savoir comment il se comporte avec son père, etc. Tu vas apprendre des anecdotes sur sa famille. Et c'est vrai que t'as ce côté aventure. Et je pense que si on avait eu le droit à l'intégralité de l'histoire, je pense que ça en aurait fait un héros encore plus marquant parce que tu apprends... Enfin, t'as son cheminement.
Il se marre.
T'as son cheminement depuis la mort de son père. Et sa quête de vengeance, mais on a plus ou moins supposé que finalement sa vengeance il l'aurait pas directement dans Shenmue 3 ou Shenmue 4 ou Shenmue 5 et qu'il y a d'autres choses qui allaient se faire. Et tu sens cette transition progressive dans Shenmue 2 et c'est vraiment intéressant. Et t'as ce côté aventure aussi. T'as un mec qui a à peine 18 ans, je crois, qui débarque à Hong Kong, il connaît personne, il sait pas où il va loger. T'es face à une grande ville peuplée d'énormément de PNJ, tous.
Et puis comment pas t'identifier, avoir l'impression d'être dans ses baskets? Parce que par exemple, quand t'arrives à Hong Kong, bah effectivement t'es quoi de mon poumon, c'est pas quoi faire,
tu dois trouver un appart,
bah donc ouais, t'as juste un petit bout de papier, etc. Bah qu'est-ce que tu fais? Bah tu parles aux gens, quoi, tu leur demandes, et puis c'est en parlant aux gens que tu découvres de nouvelles choses, etc. Il y a un côté parfaitement réaliste dans la série.
Lui aussi lui arrive des emmerdes. Ouais, genre, oui, il arrive à Hong Kong avec son sac, il a genre trois pauvres affaires et son argent économisé en conduisant le Fenwick sur le port, et il a à peine arrivé, il se fait chourer son sac, quoi. Il se retrouve à Hong Kong seul sans thune. C'est festival du spoiler encore, mais bon.
C'est pas grave, hein, t'inquiète.
Non. C'est pas très grave, non.
Voilà,
mais c'est vrai,
le monde y a joué. Et puis de toute façon, vu que le troisième sortira jamais.
Je pense que son destin de grand personnage de jeu vidéo a vraiment été amputé. Quoi.
Bah ouais, coupé net, comme le jeu tout entier, quoi. Mais bon, gardons espoir pour la
ça
suite.
Ça n'empêche pas de ses aventures et d'aimer ce
Allez,
Ryo.
Cette année pour le 3, pour une fois j'y vais, donc.
Ce Ryo Hazuki.
Annoncez Shenmue 3, s'il vous plaît.
Tiens, Romain. Oui. Tu as la bouche ouverte. Tu vas nous parler de ton troisième coup de cœur. Et c'est une femme, une fois de plus, une femme forte. Une femme qui en a, c'est Jill Valentine.
Ouais. Et ben là, tu vois, c'est ce dont je parlais au tout début du podcast. C'est que finalement, Jill, c'est pas forcément le personnage qui a le background le plus détaillé ou qui est forcément le plus charismatique. Mais j'en ai tellement chié avec elle que finalement je suis vachement attaché à ce personnage, parce que on se rappelle que dans le premier Resident Evil, Jill c'était le niveau facile, on va dire, mm-hmm. parce qu'elle commençait avec un flingue, elle avait deux slots de plus dans son inventaire, et donc bah forcément moi j'arrivais pas avec Chris, donc j'ai pris Jill et j'ai fait toute l'aventure avec elle, et c'est comme ça que tu apprends à l'apprécier. Et après t'as Nemesis, enfin Resident Evil 3, où là, pour le coup, elle est vraiment toute seule dans cette ville qui est en train de partir en cacahuète totale, en mini-jupe, et elle est poursuivie par le Némésis, donc tu fais vraiment équipe avec elle, t'as envie qu'elle s'en sorte, qu'elle s'accroche, etc. Et bon, je me base pas sur le 3, parce que là, ils ont fait le coup de la mini-jupe et du petit haut, enfin, ça j'ai moins apprécié. Mais dans le premier, ils en ont fait un personnage qui était intéressant, un personnage féminin intéressant, sans pour autant jouer à fond sur le côté la sexualisation du truc, tu vois. Elle a pas un décolleté de dingue, elle est habillée en tenue militaire, tu vois, elle est crédible dans son, c'est une flic, elle est avec son équipe de flics, et voilà, elle se retrouve dans cette situation
et elle est à deux doigts de finir en Jill Sandwich,
et elle passe pas loin de se retrouver en Jill Sandwich, c'est vrai. Et bon, donc après c'est pour ça que le 3, moi quand je l'ai fait, j'ai joué la version Dreamcast où tu pouvais choisir sa tenue, et quand j'ai fait Resident Evil 3, je l'ai remise dans sa tenue des stars, en fait, du premier. J'avais pas envie de jouer avec elle en mini jupe, parce que je trouve que ça s'adaptait pas aux circonstances, rien. Même si finalement il t'explique un peu au début du jeu pourquoi elle est habillée comme ça, mais je trouvais pas ça cohérent.
Et son développement à travers tous les épisodes, justement, jusqu'à
Révélation 2.
Révélation 2 aussi est dedans.
Non, je te dis une bêtise. Révélation 1, ouais.
Qu'est-ce que t'en penses? Resident Evil 5 aussi. au passage. Elle avait un rôle un peu plus en retrait d'ailleurs.
Bah, Resident Evil 5, elle avait un rôle un peu plus en retrait parce qu'elle était, elle était de l'autre côté du miroir en fait. Tu savais pas, enfin tu te doutais bien qu'il y avait un truc chelou, mais là pour le coup c'est toi qui vas l'aider. Mais moi à chaque fois qu'il y a un nouveau Resident Evil, j'espère que Jill sera de la partie et ça me fait toujours plaisir de voir qu'elle est là parce qu'en plus t'as de l'équipe des Stars qui est une force spéciale, des forces spéciales de la police qui ensuite après être mis face à ces trucs là va créer sa propre une organisation pour lutter contre le bioterrorisme, etc. Donc ouais, moi je suis toujours ravi quand ils nous ressortent les personnages du premier Resident Evil parce que je suis content de les suivre et je suis content de revoir Jill.
Très bien, alors du coup ça va être à moi maintenant de parler de mon dernier personnage. J'aurais pu en mettre deux, mais je vais rester sur Clémentine de The Walking Dead, le jeu de Telltale. Alors j'aurais bien voulu mettre Lee Everett aussi, parce que je pense que les deux sont liés, ces deux personnages qui sont vraiment...
C'est un duo.
Impossible, difficilement dissociable, mais je crois que Clémentine a l'avantage général, ne serait-ce que parce que c'est une petite fille absolument... tout ce qui est plus trognon, qui a une petite voix, sa doubleuse a réussi à lui donner une voix vraiment où on a envie de la protéger, quoi qu'il arrive. Quand on commence le The Walking Dead, le tout premier épisode, quand on la découvre et qu'on voit ce petit être tout fragile qui arrive, on se dit « Ah non, elle, je ne veux pas l'abandonner, il lui arrivera rien, il n'y a pas un zombie qui va la croquer, je vais la prendre sous mon aile. » Et de voir son évolution au fur et à mesure de la première saison, avec Lee, donc, qui est devenu un peu son père de substitution, qui lui apprend à survivre. Et cette deuxième saison, après évidemment une fin de première saison qui est extraordinaire, qui a fait chialer beaucoup de monde, dont moi, où elle met en pratique justement tout ce qu'elle a appris avec Lee. Elle met en pratique ses méthodes de survie. Elle commence à devenir un peu plus forte. Elle est même beaucoup plus forte que certains adultes, plus raisonnable que certains adultes. C'est un personnage qui est pour moi qui est juste... qui est irremplaçable et qui est impossible à surpasser du côté des personnages féminins, en tout cas. Je crois que là, c'est un des personnages les mieux écrits, les mieux joués, les plus expressifs que j'ai vu. Et j'espère que dans la saison 3, ça va encore bien se passer pour elle. Dans The Walking Dead, en tout cas, c'est voilà. Vous pouvez le voir hein, si vous êtes premium. On peut pas résister à cette petite bouille.
C'est pas évident d'écrire pour un personnage enfant, en fait. Je pense. Et c'est vrai que là, ils s'en sont vraiment bien tirés.
Surtout dans un univers aussi macabre. Hein. Parce c'est quand même des zombies.
En fait, elle déjà, elle a une situation qui est catastrophique. Elle a perdu ses parents, etc. Et elle doit grandir très vite, en fait. Et elle doit apprendre à prendre sur elle justement pour tenir dans ce monde qui est quand même super hostile, aussi bien vis-à-vis des zombies que vis-à-vis des autres humains que tu peux croiser. Et c'est toujours fait avec subtilité, il n'y a pas trop de clichés, etc., alors que ça serait assez simple de le faire. Elle est confrontée à des choses très très dures, des choses qu'on n'a pas toujours, enfin rarement vues dans les jeux vidéo. Ouais. Et c'est vraiment une,
je trouve,
c'est
même plus intéressante que Carl dans le comics d'origine. Le fils de Rick.
Oui.
Et même dans la série, hein, d'ailleurs.
Carl est super antipathique.
Et c'est un enfant aussi. On devrait s'y attacher. Hein, et pourtant, il lui arrive bien des galères. Mais là, franchement, je pense que Clémentine, elle est intestable, comme on dit. Voilà. Donc, The Walking Dead, si vous n'y avez pas joué, évidemment, il faut vous ruer dessus. Julien.
Bonjour.
On va repasser à quelque chose de plus barbu. Plus moustachu aussi, peut-être. Parfois. Une fois, il a été moustachu, mais des fois, il était plutôt barbu. Tu vois de qui je parle ou pas ?
Alors, pas du tout, j'ai complètement oublié.
Tu te rappelles plus ?
Non.
C'est Snake, évidemment.
Oui, ah, bien sûr, évidemment. Bon,
je parlais de Yuri Djurkaev, hein, qui avait, c'était son surnom, Snake. The Snake.
The Snake. Ah, Yuri, il nous manque un peu en équipe. Ouais.
Mais alors, quel Snake ? Solid ou Big Boss ?
Ah, Big Boss.
Tu penses à Big Boss, toi ?
Ah, bah, Big Boss est infiniment plus intéressant que Solid Snake, fondamentalement.
Oui, mais Solid Snake, c'est le premier, c'est celui qu'on a connu en premier. On l'a. C'est celui d'origine pour nous, les joueurs.
Oui, mais finalement, il y a eu moins d'épisodes, en plus, techniquement.
Bah, Metal
puisque
Gear,
Metal Gear 3,
Metal Gear Solid,
1, 2, 4,
Metal Gear Solid 4,
ça en fait 4 quand même.
Ouais,
hein.
Mais il y a Peace Walker, il y a le 5,
Metal Gear, Metal Gear
2, 3,
Metal Gear 1, Solid 2 et Solid 4, donc 5.
Metal Gear 2 ne compte pas dans le truc. Ouais, Snake Revenge ne compte pas.
Si, attends, il y a Metal Gear 2 mais qui n'est pas la même chose que Snake Revenge.
Ah,
je te parle pas de celui de la NES,
je pensais à Snake Revenge, moi.
Non, celui de la MSX.
Il y a eu Metal Gear 2, il y a eu Metal Gear, Snake Revenge.
Et puis sur Game Boy aussi.
Non, sur NES et MSX, c'est pas
Ghost Babel. Donc, voilà.
Certes, alors en termes de nombre d'épisodes, enfin d'apparitions, il y a peut-être plus de Solid Snake, mais enfin, moi, vraiment, celui qui me paraît le plus intéressant, celui qui a le plus d'étoffe, c'est Big Boss. De loin, parce que finalement, Solid Snake. C'est un peu un soldat un peu bourru alors qui est raisonnablement intéressant mais qui a pas tant de fond que ça puisque en fait il doit tout un peu à son père génétique aussi, donc Big Boss. Et puis on a appris beaucoup de choses dans MGS3, dans Peace Walker et ce qui va nous amener à Phantom Pain qui ne peuvent faire autre chose que renforcer le charisme de Big Boss, donc le Snake original. Franchement, il y a combien de héros dans l'absolu qui ont traversé comme ça quasiment 3 décennies avec autant de charisme, autant d'histoires, avec autant de rebondissements, sans finalement perdre trop le fil de ce qu'ils sont réellement, de donner quelque part de petit, puisque Solid Snake est le petit de Big Boss, de se réinventer, on va dire, avec des petits twists scénaristiques plutôt bien vus. Et puis, il est indissociable aussi, quelque part, de Hideo Kojima. Hideo Kojima, il met beaucoup de lui-même, un peu même de sa vie. C'est pour ça que ce qui est en train de se passer en ce moment, qui reste encore assez plus que chaotique, mais assez nébuleux autour de l'éviction de Hideo Kojima et de la manière dont ça va véritablement se conclure toute cette histoire. En tout cas, de fait, j'ai presque envie de dire, j'ai même pas envie de savoir qui a tort, qui a raison, qui a eu le plus d'ego, qui a eu le... Comment ça... M'en fous un peu. Ce qui est sûr, c'est que ça va amputer un peu quand même la sortie de Phantom Pain d'une manière ou d'une autre et voler un petit peu, on va dire, le final de cette série, puisque quand même Kojima l'avait annoncé très clairement. C'est évident qu'il y aura d'autres Metal Gear, mais ce sera plus, là maintenant c'est certain, sous la houlette de Hideo Kojima. Donc clairement, une page se tourne et bon, personnellement, j'aurais préféré que ça se tourne autrement, mais là je parle plus d'un point de vue de joueur. Et puis, regarde, effectivement, avec l'image là que Poufy nous a mis pour les premiums, mais que ce soit Big Boss ou Solid Snake, en gros, c'est Snake, hein. Regarde l'évolution même physique du personnage. Combien de personnages ont eu comme ça pu être assez jeunes, une vingtaine d'années, puis un petit papy.
Combien ont ressemblé à Clint Eastwood, Pierre Belmar,
Van Damme,
ouais, oui,
Christopher Walken. Enfin bon, c'est.
Bah, et aussi l'inspiration principale.
Steak Plissken, évidemment. Ouais.
Comment s'appelle l'acteur?
Kurt Russell,
voilà.
Mais physiquement, il faut quand même savoir que le premier Solid Snake, c'est le visage de Christopher Walken sur le corps de Jean-Claude Van Damme. Donc ouais, c'est quand même vraiment intéressant. C'est un personnage qui marque dans l'histoire du jeu vidéo par son physique, par son design.
On connaît bien Christopher Walken quand même.
Parce qu'il l'a fait et parce qu'il a apporté au jeu vidéo tout court, quoi. Donc pour moi, c'est un personnage, on en parlait tout à l'heure, à la fois humain, à la fois super-héros, à la fois vide, comme le disait Julot, et le joueur a pas mal de choses à y mettre aussi, puisqu'il y a pas mal de moments où le quatrième mur est cassé, où il y a des messages qui sont envoyés comme ça au joueur à travers le personnage de Snake. Donc moi, je le trouve extrêmement intéressant et attachant. Et attachant parfois plus que... ou moins, il y a des épisodes ou des actions qu'ils peuvent faire sur lesquelles le joueur peut réagir et se positionner, et ça peut même être dans le même épisode, tu peux réagir différemment par rapport au personnage. Donc bah, c'est un personnage complexe, donc c'est un personnage intéressant à mon sens.
Ils vont se complexifier avec Phantom Pain, hein,
Son évolution dans MGS3 du début de l'aventure, où c'est un soldat qui est envoyé en mission et où progressivement il se rend compte des choses auxquelles il est mis face. Et non seulement il se rend compte de certaines choses, mais en plus il se pose plein de questions, parce que les alliances de certains avec les autres sont quand même assez confuses, et il se rend compte qu'il y a toute une toile au-dessus de lui qui est très compliqué, et il est mis face à ça alors qu'il s'y attendait pas forcément, et
ça explique un peu son mauvais virage, on va dire.
Et qui est vraiment ce Big Boss là qu'on voit à l'image, donc le je crois qu'il s'appelle le Revenge Snake,
Venom Snake,
donc le héros de Phantom Pain, est-ce véritablement Big Boss?
C'est pas
dit. Il y a certaines théories, certaines un peu capillotractées et d'autres moins que cela, qui peuvent faire pencher le fait qu'il est en train.
En même temps, il m'a complètement perdu depuis toutes ces années.
Qu'il est en train de nous refaire un MGS 2, quoi. Avec des twists bien vus, quoi.
Il n'y a plus que les fans qui arrivent à suivre.
Le pire, c'est dans MGS 4.
Il suffit de faire les jeux.
Non, moi je les ai fait. Là, je suis un peu paumé.
Enfin, ouais,
c'est pas si compliqué que ça en vrai.
Enfin, tu sais, parfois c'est un petit peu tarabiscoté quoi. Ouais. Pour dire des trucs simples, il le fait de manière un peu compliquée.
Je sais pas si tu n'avais pas compris le scénar de Mario.
Pas du tout. Pourquoi est-ce qu'il faut récupérer cette princesse d'abord? Il y a aucune bonne raison.
En tout cas, Snake, comme je l'ai dit tout à l'heure, on aura des nouvelles à partir du 1er septembre.
Eh, mais c'est marrant, mais je me faisais la réflexion. Tu disais Big Boss ou Snake? Et moi, je crois que celui que j'ai préféré, le jeu que j'ai préféré en tout cas, je crois que c'est quand même Metal Gear Solid 2.
Mais n'en dis pas plus pour ne pas spoiler.
Ah bah, au point où on en est.
Oh là, vous faites chier que vos spoilers. Ah bah,
là, il n'y a rien spoil à spoiler. Là.
Bah, si. T'allais dire qui est le héros de Metal Gear Solid 2.
Non, c'est pas ça qu'il allait dire. Ah.
Non, c'était par rapport à est-ce qu'on préfère Big Boss ou machin. C'est vrai qu'il est peut-être plus intéressant, Big Boss, mais en même temps, mon Metal Gear préféré, ça reste le 2. Quoi.
Et c'est celui où on voit le moins Snake.
Ouais. C'est vrai. Iroquois Plissken à la classe. À la classe
ouais,
aussi.
C'est vrai. Effectivement. Bon. Alain, on va retourner un peu du côté des femmes, voilà. Et pas n'importe et laquelle. Classique. C'est la seule qui a fait la une de Libé, si je ne m'abuse, en 96 ou 97. Il s'agit de Lara Croft.
Phénomène extraordinaire. Mmh. Lara Croft, j'aime beaucoup Lara Croft. D'abord pour sa carrière dans le jeu vidéo, parce que d'une part, ça a été la première vraiment héroïne de jeux vidéo. Et depuis, il y en a eu d'autres, mais il n'y en a pas eu non plus des millions. Donc, elle a été la première. Et elle a été vraiment une vitrine à une époque pour le jeu vidéo, car elle a eu un tel triomphe vraiment partout. Lara Croft, à un moment, les Tomb Raider, c'était ce qui se vendait le plus. Et elle a fait la couve de Libé.
Elle a été dans les concerts
partout.
De YouTube, dans les pubs pour des bagnoles.
Absolument.
Elle était en interview aussi dans.
Je pense que
FHM ou un truc comme ça.
En fait, ce qui a été très intéressant à une certaine époque, c'est qu'on l'a montré, elle est sortie du jeu vidéo pour arriver au grand public, et c'était devenu une héroïne virtuelle. Et c'était super. On parlait vraiment d'une héroïne virtuelle. C'était la première et ça marchait vraiment. Moi, je pense à l'époque et je pense toujours que Eidos a fait une énorme connerie en prenant des nanas, des mannequins pour tenir le rôle qu'ils envoyaient en télé. Alors, effectivement, ça continuait à faire parler de jeux vidéo, etc., ce que je trouve très bien. Mais je pense que c'était une erreur. Je pense qu'ils auraient dû vraiment continuer à exploiter le côté idole virtuelle, personnage virtuel. Complètement essayer de monter des choses comme ça plutôt que de mettre des mannequins qui finalement n'avaient aucun intérêt. Ça utilisait uniquement le côté sexy, car il y avait un côté sexy très net.
Elle était designée comme ça au
départ.
Au départ,
il y avait les obus, c'est clair, ils misaient là-dessus. En même temps, le personnage est un peu ambivalent parce que d'une part, elle est athlétique, elle est sportive, elle est intelligente, elle est cultivée. Elle n'est pas juste un objet sexuel, même si elle a ce côté objet sexuel que je trouve est moins développé maintenant dans le dernier jeu qu'il y a eu, que j'ai beaucoup aimé, le dernier Tomb Raider. Je trouve que la reprennent un peu plus jeune, elle a moins les obus, elle a moins ce côté
c'est moins une pin-up
totalement sexy.
Les temps changent aussi, hein.
Voilà, plus naturel,
plus,
et je pense que c'est une bonne chose.
Oui, c'est plus intéressant, tu vois. C'est pour ça que moi Resident Evil, le premier Tomb Raider, c'est un peu la même époque. C'est toujours pour ça que j'ai préféré Jill à Lara, même si finalement Lara a peut-être un background qui est plus sophistiqué, le personnage est plus charismatique, ouais. Mais je trouvais que ce côté sexy avait été trop mis en avant à l'époque. C'était dommage, le personnage était intéressant.
C'était
à d'autres
pour faire passer le truc, hein, parce que c'était pas évident
à l'époque
de prendre une héroïne féminine, de mettre femme en tant que héros d'un jeu, ça se faisait absolument pas, quoi. Donc effectivement.
Et encore aujourd'hui, c'est difficile, hein, d'imposer
oui,
des femmes.
Absolument.
Certains
c'est
développeurs
pas,
en parlent.
C'est pas souvent.
Le problème, c'est que souvent les jeux avec des filles se plantent, quoi.
Oui, c'est commercialement.
C'est ce que
disent les éditeurs.
Bah oui. Non, mais le truc, c'est que voilà, il faut
donc
savoir
prendre
des risques aussi.
Et comme c'était pas évident, le fait de jouer sur le côté sexy, c'était un petit peu de bonne guerre.
C'est la porte d'entrée facile.
Voilà, ça faisait passer la sauce.
Ça attire le regard, et après. après tu laisses sa chance ou pas au jeu, mais c'est sûr que ça attire l'attention, parce que c'est vrai que Tomb Raider, même à l'époque en termes de réalisation et de gameplay, c'était un jeu qui était assez innovant, mais je sais pas s'il aurait attiré autant les gens avec un héros masculin.
Non, je pense pas. Non.
Alors que non, c'était prévu à la base.
C'était Indiana Jones, en fait.
Oui, c'est Indiana Jones au féminin.
C'est, mais avec Indiana Jones au féminin. Et ça aurait, bon, c'est ça qui donnait une dimension. Mais je reviens là-dessus. Moi, ce que je trouve vraiment très intéressant dans ce personnage, c'est l'importance que ça a eu dans l'évolution du jeu vidéo et du jeu vidéo vis-à-vis du grand public. Et à ce niveau-là, le personnage de Lara Croft a joué un rôle vraiment très important. Et ça, c'est quand même... Bah c'est,
c'est un bon concours de circonstances, en fait. T'as Lara Croft qui déboule en plein carton de l'ère PlayStation avec une nouvelle façon de montrer le
jeu,
montrer le jeu vidéo.
Et puis un concept facile à expliquer au grand public. Oui. C'est Indiana Jones, sauf que c'est une femme et c'est dans un jeu vidéo. Voilà, le pitch, il était réglé en deux secondes. Tout le monde, même ceux qui ne s'intéressaient pas aux jeux vidéo, pouvaient comprendre le truc. Absolument. Donc ça, c'était sa force.
C'était un super jeu.
Et en fait, c'était un grand jeu. Vraiment. Et puis en plus, franchement, à l'époque, contrairement à maintenant, à l'époque, c'était vraiment le public était essentiellement considéré. C'était des hommes.
C'était essentiellement masculin.
C'était masculin, totalement le jeu vidéo, ce qui est beaucoup moins le cas maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est que Lara Croft, peut-être parce que c'était une femme, ou peut-être à cause du type de jeu, a séduit pas mal de femmes. Combien de gens qui ont fait comme moi, qui l'ont joué avec leur femme à côté. Et eux, faisant la partie muscle, passer les obstacles, les machins, les combats, et la femme trouvant les astuces, etc. Moi, je l'ai fait, et j'ai le nombre d'amis qui l'ont fait comme ça avec leur femme. Et c'est un jeu. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de jeux qui faisaient venir des femmes. Et celui-là, il le faisait. Mais je pense pas que ça soit uniquement parce que c'était une femme, Lara Croft. Je pense aussi beaucoup... le type de jeu avec le côté astuce, trouver des machins, explorer un temple ou un sphinx. Ça leur a parlé beaucoup plus que nos scènes de combat habituelles, quoi.
Très bien. Julo, tu vas clore ce podcast avec
c'est pas
ton
toi
héros.
Le dernier ?
Non, c'est pas moi. On l'a donné. J'ai tout donné. Moi, ça y est, je n'ai plus rien à, rien à donner. C'est toi. Oui. On va finir avec un héros. Alors là, je suis très étonné qu'on finisse avec ce héros, en fait, parce qu'il est totalement muet.
Exactement.
Il ne parle pas, il est ouvert, il a une épée. C'est Link.
Ouais.
Et pourquoi
alors,
Link ?
Bah, je voulais absolument quand même que dans ma sélection, il y ait un personnage un peu iconique, parce que, enfin, je veux dire, on l'aime tous, Link, en fait.
Non.
Même si...
Comment ?
À part Romain.
Bon, je l'aime pas, c'est que je m'en fous, en fait.
Hérétique, bon, okay.
Alors, on n'aime pas tous Link, mais enfin, on est nombreux à aimer Link. Pourquoi ? C'est vrai que c'est un personnage lisse, qui n'a pas de personnalité, etc.
Voilà.
Qui est, je veux dire, muet, comme tu disais. C'est quelque chose de voulu par Nintendo pour justement qu'on puisse mieux l'incarner, s'identifier à lui, etc. Et pour autant, par rapport à un autre personnage de la même firme, comme Mario, par exemple, Mario, il n'a jamais changé. Mais Link, il change à tous les épisodes. Et moi j'ai des souvenirs qui sont propres à chacun de ces Link et j'ai mis un petit peu de moi dans chacun d'entre eux d'une manière un peu différente, dans des contextes différents, etc. J'ai adoré et je pensais pas l'adorer à l'époque le fameux premier jeu en cel shading
Wind Waker
qui était là pour le coup un Link extraordinaire. Alors ce qui est marrant, c'est que on te donne toujours les mêmes ingrédients. C'est-à-dire, on récupère les fringues, l'épée, le bouclier. Voilà, il y a les trucs. Voilà, ses habits sont verts, etc. Et puis, on te lance dans un truc, mais à chaque fois, c'est quand même un univers assez différent, un contexte différent, et puis finalement, des sensations différentes que tu as à l'incarner. J'ai pas du tout ressenti la même chose, malgré tous les points communs qu'il y a entre tous les Zelda, quand j'ai joué à Wind Waker et quand j'ai joué à Ocarina of Time, où là j'appréciais beaucoup d'avoir un Link adulte, de voyager dans le temps, etc. Alors que dans Wind Waker, c'était quelque chose un délire plus enfantin, mais en même temps, voilà, t'étais là, tu voguais, tu partais faire la chasse au trésor, etc. Donc je trouve qu'avec un truc, une formule qui est toujours plus ou moins la même, enfin, des ingrédients qui sont plus ou moins les mêmes, on arrive à obtenir des recettes à chaque fois différentes et on est, je veux dire,
enfin moi pour ma part en tout cas, complètement attaché à ce personnage. Pour moi il fait complètement partie de ma vie, de mon univers, et c'est un personnage que j'adore quoi. Donc,
tu vois c'est un peu ça, voilà. Ça renvoie un peu à ce que je disais tout à l'heure. Si tu es attaché à Link, c'est pas forcément pour lui en tant que personnage, c'est par rapport aux souvenirs et aux expériences que tu as vécues à travers lui.
Ouais, mais pour autant, notre média a cette particularité de nous faire incarner des personnages. Et donc, c'est pour ça que je disais, contrairement au cinéma, tout à l'heure, un héros vide peut être un bon héros aussi, ouais, dans le jeu vidéo. Ouais. Ce qui serait pas le cas au cinéma. Voilà, parce que tu mets quand même un peu de toi dedans, parce que c'est toi qui le contrôle, c'est toi qui vis l'aventure à travers lui. Donc,
ce que t'as aimé en fait, c'est Julo dans Ocarina of Time, c'est Julo dans Wind Waker,
parce que Link, c'est l'histoire
Link
que j'ai vécue.
Non mais
c'est l'histoire que j'ai vécue à chaque fois dans chacun de ces jeux. Voilà.
D'autant
qui
que tu pouvais ne pas l'appeler Link au passage. Il a toujours été renommable.
Oui, c'est vrai.
Au passage.
Mais moi je l'appelle quand même Link à chaque fois.
C'est vrai.
Ouais, j'aime pas. Enfin, c'est Link pour moi.
Alors, tu t'identifies à lui,
tu lui donnes de toi, mais tu n'aimes pas son. Justement pour ça. Hein. C'était pour
le
être lien entre le
joueur
et
le
personnage. Ouais. Mmh.
Et c'est tout à fait ça, je trouve. Et donc, ça reste un personnage de jeu vidéo. Et donc, un personnage intéressant parce qu'il nous a fait voyager avec à chaque fois un cadre plus ou moins qui répondait aux mêmes règles, mais dans des univers et dans des ambiances totalement différentes et que j'ai adoré à chaque fois. Donc, moi, pour moi, lui, il représente tout ça. C'est un personnage et je le mets dans mon top. Voilà.
Très bien. Et ben, c'est avec celui-ci qu'on va terminer ce tour de nos héros de jeux vidéo préférés chez Gameblog. Pas de quiz, non. Pas de quiz cette semaine parce que les quiz aussi sont en vacances. C'est comme ça. Évidemment, nous, on vous a donné nos héros préférés, nos héroïnes préférées. Mais vous, voilà, comme pointe Julien du doigt avec beaucoup de vigueur, si
toi
vous nous regardez en premium, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont vos héros et héroïnes préférés, ce qui est aussi un bon protagoniste hein, pour vous, c'est très important, on a envie de savoir, parce qu'un jour peut-être, on prendra vos réponses et on compilera ça dans un article, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Merci Romain.
Je t'en prie.
Merci Julo.
Merci.
Merci Julien.
Ben merci à
et
vous.
Merci Alain.
C'est un plaisir.
D'avoir participé à ce podcast. Alors, est-ce que je vous retrouve la semaine prochaine? Non, je crois que je ne vous retrouve pas la semaine prochaine, mais je vous embrasse quand même. Ce sera...
On va parler du Japon la semaine prochaine.
Ce sera le Japon qui sera avec Julien.
Et on aura un invité qui est actuellement développeur au Japon, qui sera parmi nous. Et qui
Shigeru
nous...
Miyamoto.
On va parler un petit peu justement du marché du jeu vidéo japonais. Est-ce qu'on on a le sentiment depuis quelques temps qu'il y a une espèce de regain. Est-ce qu'il va nous le confirmer ou pas au niveau des développeurs? Comment ça se passe? La transition, tout ça. Voilà. On va parler de plein de trucs. Ça va être génial.
Voilà. Et la semaine d'après, on se retrouvera pour de l'actualité.
Et ça sera chiant.
À l'ancienne. Oh là là. Bon, d'ici là, en tout cas, restez bien sur Gameblog et portez-vous bien. Et surtout, jouez bien. Ciao.
Ciao.
Salut.